cellule au premier étage. Je te réinstalle central pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionce dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelques poussins crient. Y'a du partout dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pas de commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tu mets pas de fête à saccager les pios. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner.
Bonsoir, il est 19h, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est l'émission Sans Papiers ni Frontières, l'envolée, jusqu'à 20h30. Alors, je redonne les numéros de téléphone, le numéro du direct pour laisser des messages à la fin de l'émission aux personnes qui sont enfermées, le 01 40 05 06 10. Et le numéro de portable de l'émission Sans Papiers ni Frontières, le 06 50 07 52 32. Alors ce soir, il y a Margot.
Salut.
Martin.
Bonsoir.
Nat.
Salut.
Carla.
Salut.
Et Vincent et Mélie à la technique.
Et puis Manu.
Et moi. Salut. Eh bien, on va commencer parce que le programme est chargé. Donc on va faire des petites brèves, puis après on parlera des murs qui se dressent. À travers le monde.
Eh bien, ça commence de façon particulièrement horrible, il faut bien le dire. C'est l'histoire de trois réfugiés à Calais qui cherchent à passer en Angleterre, comme il y en a beaucoup, et qui se planquent dans un camion qui doit traverser la Manche. Bon. Ils s'aperçoivent que le conducteur a fait le tour du camion et il les a vus. Alors ils se disent, bon, il va nous faire sortir. Mais non, le camion démarre. Au bout d'un quart d'heure, le chauffeur se gare sur un emplacement de stationnement Et là, il fait le tour du camion et il leur dit de sortir. Seulement, voilà, ils étaient planqués derrière des caisses que transportait le camion. Il fallait qu'ils passent par-dessus les caisses pour en sortir. Ils ont mis du temps. Le camion a redémarré. Et quand ils sont sortis, il était déjà en train de rouler sur la route. Alors, il y en a deux qui sont tombés sur leurs pieds, qui ont pu se casser et se sortir de l'autoroute rapidement. Mais le troisième, il est tombé sur la tête, il a été choqué. Les autres ont essayé de dévier la circulation, mais lui, il ne pouvait pas se relever. Et un autre camion est passé, et lui est carrément passé dessus. Inutile de dire qu'il est mort.
Eh ben, pour continuer dans les nouvelles glauques, à Marseille, il y a eu le 11 janvier 2014 une expulsion vers la Guinée par bateau. Et donc, il y avait deux personnes qui devaient se faire expulser. Une fois que le bateau est parti, était dans le port, et ils ont sauté à l'eau. Et, sauf qu'il y en avait un qui ne savait pas nager, du coup, il s'est noyé. Et l'autre a été rechopé par les flics et ramené au centre de rétention de Marseille. Et quelques jours après, il y a quand même eu un rassemblement pour dénoncer les expulsions, etc.
Et voilà, les frontières tuent tous les jours. Et pas que les frontières, les prisons aussi. Et d'ailleurs, le 2 février, une personne qui était enfermée à la prison de Fleury-Mérogis, Denis Asdin, qui avait 21 ans, était retrouvé dans un état de mort cérébrale. Et il y a un rassemblement de 300 personnes qui s'est déroulé devant la prison de Fleury-Mérogis, notamment parce que la version de la matonnerie et de l'administration pénitentiaire, c'est qu'il aurait essayé de se pendre dans sa cellule. Et en fait, c'est la famille de Nice en doute, voilà. Semble trouver que c'est une version assez improbable. Et voilà, on voudrait du coup saluer le courage de celles et ceux qui se battent pour que les matons et l'administration pénitentiaire se sentent pas tout puissants à raconter ce qu'ils veulent. Et voilà, s'il y a des gens qui ont des infos à l'intérieur sur ce qui s'est passé, ils peuvent écrire à l'Envolée. On redonne l'adresse, donc c'est l'Envolée, 43 rue de Stalingrad, 93 100 Montreuil.
Et du coup, on va quand même passer aux bonnes nouvelles, parce qu'il y en a. Dans la nuit du 28 au 29 janvier, à Oissel, donc Oissel, c'est à côté de Rouen, c'est là où est le centre de rétention, il y a 8 personnes qui ont réussi à s'évader. Et donc, pour ça, ils ont dévissé la grille qui était devant la fenêtre du dortoir. Ils ont arraché le volet qui était fermé. Et après, ils sont arrivés dans la cour. Et une fois dans la cour, ils sont montés sur le toit d'une voiture. Ils ont escaladé le grillage qui fait 2 mètres, 2 mètres 50. Et ils se sont barrés dans la forêt, puisque le centre est en plein milieu d'une forêt. Et le système d'alarme s'est déclenché, mais en fait, comme c'est assez grand comme endroit, les flics ont mis du temps à comprendre d'où venait la chose, et ils sont arrivés trop tard. Et ils ont quand même lancé le lendemain des recherches dans la forêt. Ils ont fait une battue. Et pour ça, ils ont embauché tous les élèves futurs flics de l'école et des chiens. Mais ça n'a rien donné. Et nous, on est très contents.
Et encore une bonne nouvelle, une autre belle à Mayotte, donc, qui a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi dernier, là, depuis le centre de rétention de Pamandzi, donc c'est le centre de rétention de Mayotte, où il y a 3 personnes qui ont réussi à se faufiler dans les conduits d'aération et à se faire la belle, quoi. Donc aux dernières nouvelles, ils n'ont pas été retrouvés. Et on leur souhaite bon vent, c'est le cas de le dire. Et dans ce centre, il y avait déjà eu des évasions en novembre 2010. Il y avait 22 personnes qui avaient réussi à partir d'un coup en déboulonnant le toit. En fait, le centre de Pamandzi, il est réputé pour être en vraiment très mauvais état, quoi. Il tombe en ruine. Et du coup, ils ont déboulonné le toit qui était déjà bien endommagé. Ils ont réussi à partir, 22 personnes. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait la ministre déléguée à l'Outre-mer de l'époque qui était sur l'île à ce moment-là. Quand il y a eu cette évasion. Voilà pour les bonnes nouvelles.
On va mettre un peu de musique.
Now, L'émeute atteint son paroxysme lorsque 15 000 ouvriers tentent de prendre d'assaut le palais du gouvernement.
Ouais.
Dans la rue, l'humeur est sale.
C'est rien.
De la rue montent les rumeurs.
Ça va pas bien loin.
Et si les casques bleus calent,
c'est rien.
Si c'est chaud sur l'asphalte,
c'est rien.
On passe tes barricades, on pète tes barrières. On a la barre, on déraisonne et on craint plus personne. Toi t'appelles les renforts, la rage du renfort. Sonne ta retraite, c'est ton heure qui sonne. Insensible aux propagandes, les mecs qui glandent. Ceux-ci bandent hélas et veulent tout péter en bande. Comme dans un James Bond ou un Banderas. Là t'as pas de télécommande, donc on nique. En force, en foule désordre.
C'est rien.
Pour toi, on a une corde.
C'est rien.
Tu nous verras à l'antenne, déraciner ton chaîne. On va changer les programmes sur ta première chaîne.
Et ça n'hésite plus.
Le bien ou le mal, mais là c'est pas le bien qui triomphe. L'instinct a fait un triomphe, fait un cri, on fonce. Si l'émeute s'étend,
c'est rien.
Et si c'est inquiétant,
ça va pas bien loin.
Si tout est fermé, les rues et les voitures enflammées. Et ta citoyenneté, on en a rien à glander. Les gens des halls me comprennent, c'est dans Hollis que j'aime. Ils disent qu'il y a trop de haine qui coule dans mes veines. Un peuple héroïque face à un pouvoir égoïste. Un coup de gueule des sous-classes de la République. C'est un champ de bataille sur les Champs-Élysées. Le diable vient pisser sur la rue de la paix. On lâche pas le contrôle,
c'est rien.
Sur la lisière de l'émeute, subit la haine de la meute.
Qu'ils le sentent,
c'est rien.
Si la tension est oppressante,
ça va pas bien loin.
S'il y a plus de respect, plus de cadets, plus de gradés. Et que tous vos conseils, on n'a rien à péter. On va tout dégrader, la banque va sauter, la boulangerie d'à côté. On fout le feu chez le voisin, histoire de se venger. S'il y a des buts cassés,
c'est rien.
Si on vient tout plier,
ça va pas bien loin.
Si le maire s'est sauvé,
c'est rien.
Et même s'il y a l'armée,
c'est rien.
Des pavés, des comas, des hématomes, des blessés, des décès. Si ton pays est stressé, s'il y a le feu au village, s'il y a le feu dans la ville, si tu vois saigner les civils, si ça tire dans l'entourage, c'est juste une nuit d'émeute où le diable jubile. Deux jours aux infos, après on est tranquille.
Vous êtes toujours sur FPP 106.3, c'est l'émission Sans papier ni frontières, l'envolée. Et donc on continue sur les brèves internationales. On va commencer par aller en Suisse, où donc il y a un nouveau centre de rétention qui a été ouvert, construit et ouvert le 6 janvier 2014. Et donc quand même, cette ouverture n'est pas passée inaperçue pour tout le monde et il y a eu un peu de lutte, on va dire. Il y a eu une manif le 11 janvier à Zurich qui a rassemblé 500 personnes contre la machine à expulser et les centres de rétention, plus d'autres actions de peinture lurage des murs de la ville et de certaines institutions qui participent directement à cette machine à expulser. Et donc voilà, c'est un centre qui peut enfermer jusqu'à 300 personnes.
En Autriche maintenant, à Vienne, il y a une voiture de flic qui a brûlé devant le centre de rétention dans la nuit du 17 janvier. Et donc il y a un petit communiqué de revendication qui est sorti et du coup je vais vous le lire. Dans la nuit du 17 janvier 2014, nous avons incendié une voiture de police devant le PAS, centre de rétention de police, à Ernalsergürtel. À Vienne, désolé pour l'accent. Dans le PAS se trouve un centre de rétention d'où des personnes se font continuellement expulser de l'Autriche. Nous voulons attaquer avec ce petit geste la construction raciste de l'Autriche et donner une petite réponse à l'attitude et à l'existence des flics et d'autres autorités. Feu et flamme aux autorités d'expulsion et de répression.
On va passer à l'Espagne et en fait, du coup, je vais vous lire un texte que des camarades espagnols ont écrit pour appeler à une manifestation qui a eu lieu devant le centre de rétention de la Zona Franca à Barcelone. Mohamed Abagui, 13 mai 2010. Idrissa Diallo, 6 janvier 2011. Ramis Manoukian ou Alik, 3 décembre 2013. Jonathan Cisalima, 19 juin 2009. Ce sont quelques-uns des morts assassinés par les mains de la police nationale. Mort d'un passage à tabac par manque de soins. Mort de CIE. CIE, c'est Centre d'internement pour étrangers. C'est le nom des centres de rétention en Espagne. Ils parlent de suicide ou de crise cardiaque. Mais nous, nous savons ce qu'est un CIE. Cellule d'isolement, torture, expulsion. Là-bas, les assassins de la police nationale disposent d'une totale liberté de frapper, maltraiter et humilier qui ils veulent, cachés derrière les murs d'un CIE perdu dans la zone franche. Loin des regards de qui ne veut pas voir. Des assassins payés par l'État, aidés par la machine judiciaire qui les protège toujours, expulsant en urgence ceux qui témoignent, qui pourraient contribuer à mettre en évidence la brutalité de la répression policière du système raciste dans lequel nous vivons. Nous sommes là, face à une prison qui ne dit pas son nom, face à ces matons qui n'assument pas leur assassinat, et face à l'Europe qui n'assume pas que, ici, tous ceux qui ont envie essaieront de venir et de rester. Le CIE est un maillon indispensable de la chaîne qui cherche à empêcher la liberté de mouvement de tout à chacun, de la militarisation et l'externalisation des frontières jusqu'aux rafles quotidiennes à la sortie du métro, les contrôles au boulot ou les interminables démarches bureaucratiques pour renouveler tes permis de séjour, pour garantir ton mariage ou obtenir un contrat de travail. Et c'est pourquoi notre rage nous empêche de demander des réformes de conditions de détention des prisonniers. Nous ne voulons pas nous asseoir avec qui écrira le prochain décret qui réglementera ces prisons et débattre sur ces modalités. Nous voulons en finir avec l'existence des CIE, que bientôt nous ne pourrons marcher sur les ruines d'un des visages les plus durs de la violence de l'État. Les heures et les jours qui ont suivi le 31 décembre passé nous ont montré encore une fois la réalité qu'ils cherchent, toujours avec des métaphores. Nous parlons par exemple du supposé nouveau nom des CIE, bientôt appelé « Centre de séjour contrôlé pour étrangers ». À couvrir ou à cacher. Quand à l'intérieur, quelqu'un commence à se rebeller, à s'animer et à résister à ses matons, quand les anti-émeutes restent plusieurs jours de suite à réprimer la révolte, quand 40 prisonniers sont en grève de la faim, quand les jours suivants, ni les avocats, ni le défenseur des personnes, ni les médecins ne peuvent entrer, ils l'appellent bagarre entre détenus, calmer les esprits ou une dispute. Pour cela, il est nécessaire, nous autres, soyons là, à appeler les choses par leur nom, pour ne pas oublier ni détourner le regard ailleurs. C'est pourquoi il est nécessaire de rendre chaque fois plus visible notre soutien et notre solidarité avec qui est prisonnier ici, pour ajouter à la juste rage de qui est enfermé la nôtre de le savoir ici. Aller de plus en plus fort jusqu'à démolir le dernier mur, le dernier grillage. Aucune agression sans réponse, flics, assassins, contre les murs et les frontières du racisme, continuons jusqu'à la liberté. Bon, cette manif a apparemment rassemblé au moins 1500 personnes devant le centre de rétention. Voilà.
Eh ben moi, je vais vous parler un peu de l'Italie, pour changer.
Ouais.
Ça fait du coup quelques mois quand même qu'on parle régulièrement de l'Italie dans l'émission. Et du coup, on assiste à son progressif, au progressif écroulement de la machine à expulser en Italie. Du coup, tous les mois, on raconte un peu comment un centre de plus a été détruit par les révoltes. Des retenues à l'intérieur, et évidemment, non, c'est pas grâce aux partis politiques et associations qui en réclament la fermeture parce que ça coûte trop cher. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ce dernier mois ? Eh bien, ce dernier mois, il y a quand même encore eu des révoltes assez importantes à Turin, notamment dans le centre du Corso Brunelleschi. Il y a deux sections du centre de rétention qui ont été entièrement brûlées. Il y a même une petite vidéo qui a réussi à sortir du centre, que d'ailleurs on peut voir sur le blog sanspapiersnifrontieres.noblogs.org. Et donc, au cours de la vidéo, en regardant la vidéo, on peut voir à quel point les chambres ont été détruites, tous les murs sont complètement noirs. Voilà, il n'y a plus grand chose qui reste quoi, de ces révoltes-là. De ces sections. Et en tout cas, là, il semblerait que. Les personnes qui gèrent le centre n'aient pas tellement l'intention de le réparer. Là, il y a vaguement des ouvriers qui sont revenus repeindre en blanc les murs pour un peu en guise de cache-misère. Mais là, il y a plein de retenues qui ont été transférées dans d'autres centres. Actuellement, il n'y en a plus que 45. Et du coup, vu qu'il ne semblerait pas que les dommages soient réparés, on peut se poser la question de si on ne va pas vers une fermeture du centre. Voilà, ça c'est pour Turin. À Rome, par ailleurs, il y a en ce moment plus que 100 retenues sur les 350. Il y a, sur les 350 places disponibles, il y a 3 sections qui sont entièrement détruites. Il y a des retenues récemment qui sont cousues la bouche en guise de protestation. Voilà, c'est pas hyper... Bon, c'est pas une super nouvelle, quoi, mais...
C'est pas une manière de se révolter qu'on a envie de mettre en avant, quoi.
Non, et par ailleurs, d'ailleurs, ces derniers temps, il y avait des retenues qui étaient en grève de la faim et d'autres qui l'étaient pas, et les militaires ont refusé de distribuer les petits déjeuners aux personnes qui n'étaient pas en grève de la faim. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui n'étaient pas en grève de la faim? Ils ont allumé un petit incendie et à peine le feu, comment on dit, maîtrisé, le petit déjeuner est arrivé aussitôt. Voilà. Donc ça, c'était pour le deuxième centre encore debout. À Caltanissetta, qui est le troisième, plein régime, il y a une centaine de prisonniers, donc il y a... le centre est plein, mais il y a quand même quatre retenues qui ont réussi à s'évader le 4 février en escaladant le mur. Et en fait, c'est le seul centre actuellement qui marche à plein régime, parce que les deux autres centres qui sont encore ouverts pour le moment, c'est Trapani, Milo et Bari. Et ces deux-là, ils sont en cours de fermeture pour restructuration. En Trapani, pour le moment, il y a 130 retenues sur les 240 places disponibles. Et voilà, bientôt, ils vont être fermés. On n'aura plus que 3 centres sur les 11 qu'il y avait initialement et que les révoltes ont détruit les uns après les autres. Si ce n'est pas des bonnes nouvelles, ça. Par ailleurs, qu'est-ce qui se passe en Italie en ce moment ? Il y a une campagne contre la Poste qui vient d'être lancée. Pourquoi la Poste ? Parce que c'est l'actionnaire majoritaire du groupe Mistral Air. Et Mistral Air, c'est la compagnie aérienne qui déplace les retenues d'un centre à l'autre. Quand le centre est détruit par les révoltes, tac, on met les retenues dans l'avion Mistral Air et on les emmène dans un autre centre, voire carrément on les expulse en Afrique du Nord. Et du coup, Mistral Air, c'est cette compagnie qui appartient à la Poste et qui se charge de tous ces transferts. Et donc il y a une campagne qui a commencé en Italie il y a une dizaine de jours, et il y a déjà quelques postes qui ont été recouverts d'affiches qui expliquent le rôle de la Poste dans la machine à expulser et dans les expulsions de sans-papiers. Et du coup, en Italie, il y a des gens, comme partout d'ailleurs, qui montrent leur solidarité avec les sans-papiers qui sont enfermés dans les centres de rétention. À Florence, il y a des voitures de la Croix-Rouge qui ont été vandalisées il n'y a pas longtemps et qui ont été recouvertes de tags. La Croix-Rouge, parce qu'elle gère plusieurs centres de rétention en Italie, de moins en moins. À Turin, il y a un groupe de solidaires qui allait déranger une session de formation au premier secours de la Croix-Rouge pour rappeler que, effectivement, c'est la Croix-Rouge qui gère les prisons pour étrangers. Et demain, il y aura un rassemblement au centre de rétention de Turin en solidarité avec les retenus qui restent à l'intérieur. Et ce sera donc à 16h.
Eh bien, on va écouter un petit peu de musique et puis on va reprendre après sur les murs.
Yeah.
Vous êtes bien sur FPP, Fréquence Paris Pluriel 106.3, et c'est l'émission Sans Papiers ni Frontières, l'envolée. Donc on va continuer l'émission en parlant des murs, comme on avait annoncé. Mais avant, on en profite pour passer le bonjour à Abslem.
Salut, voilà. Abslem.
Je ne sais pas si tu nous écoutes, mais en tout cas, on te salue. Et on salue aussi toutes les personnes qui nous écoutent d'ailleurs. Et du coup, on voulait parler des murs qui séparent des pays, qui séparent des territoires, etc., qui sont de plus en plus nombreux dans le monde, et construits la plupart du temps comme des frontières, quoi, pour séparer deux États ou deux territoires dans des États. Et c'est une nouvelle arme du pouvoir, quoi. Enfin, c'est pas nouveau, mais là, de plus en plus, il y a des murs qui sont construits pour la mise en application des politiques migratoires des États. Et donc, ils dessinent un peu une espèce de grand... l'esquisse de ce qui pourrait être un grand camp à ciel ouvert où chacun serait parqué là où à la place qui lui a été assignée. Et que seuls les riches et ceux qui dirigent auraient la possibilité de se déplacer ou de dire qui peut se déplacer en dehors de ces zones. Et bon, ils ont plusieurs fonctions, les murs. Il y a des murs contre les trafics frontaliers, la contrebande, les trafics de drogue. Il y a des murs qui sont construits aussi contre les groupes terroristes ou les associations criminelles. Mais la principale fonction reste celle de la lutte contre l'immigration. Et puis, il y a aussi les murs qui servent à enclaver des gens dans une zone restreinte et où le territoire dans lequel ils vivent est de plus en plus grappillé par des occupants ou des colons. Et dans les murs connus, il y a le mur de Berlin qui n'existe plus. Mais il y a aussi le mur de séparation... entre le Mexique et les États-Unis, ou encore le mur qu'entoure les territoires palestiniens. Et en tout, il y a 21 000 km de murs dans le monde. Donc, c'est deux fois la distance Paris-Tokyo, ou alors 500 marathons, puisqu'un marathon, c'est 42 km.
C'est la moitié du tour de la Terre.
Et... du coup, je ne sais pas si Margot, tu as envie de... rajouter quelque chose, mais en tout cas, c'est pas forcément des murs qui sont en béton armé, mais il y a aussi constitué de grillages, de barbelés, de double grillages, triple barbelés, augmentés de lames de rasoir, de miradors. Mais il y a aussi des murs, c'est en fait des tranchées remplies d'eau avec des lames de fond. Et c'est aussi des patrouilles de flics, des militaires pour garder tout ça, surveiller tout ça, des gardes frontières. Où certains ils sont surveillés par des compagnies de sécurité privées ou par des milices de citoyens, comme par exemple le long du mur qui sépare les États-Unis et le Mexique. Il y a à plusieurs endroits, c'est des milices de citoyens qui surveillent la zone et qui tirent à vue sur les migrants à la carabine. C'est aussi des dispositifs de surveillance de plus en plus sophistiqués, des caméras nocturnes, des détecteurs thermiques, des drones, des satellites... Et donc, ils viennent renforcer la structure du mur. Et le tout qui se fait la plupart du temps dans un effort de collaboration entre les divers États concernés pour ce qui concerne à la fois les financements, parce que donc, ça coûte quand même plusieurs milliers d'euros d'élever un mur, et les échanges de données, puisqu'il y a des fichiers d'informations sur qui passe, qui passe par ces murs-là. Et du coup, il y a des systèmes, par exemple, je pense au système Eurosur, qui est un système entré en vigueur en décembre 2013 et qui prévoit la mutualisation des moyens de surveillance maritime entre certains pays autour de la zone méditerranéenne et qui est aussi un dispositif où en fait, les informations récoltées 24 heures sur 24 aux frontières européennes sont récoltées et diffusées de manière à ce que chaque pays puisse suivre la situation en temps réel aux diverses frontières de l'Europe.
Ouais, du coup, le mur, c'est un peu l'image de la frontière, un peu la caricature de la frontière, le mur qu'empêche de passer. Après, on sait bien que les frontières, souvent, elles sont invisibles ou sous d'autres formes. Par exemple, un aéroport, c'est une frontière. Et les frontières, des barrières qu'on peut dire un peu naturelles, comme les mers, qui sont pas tant naturelles que ça, vu que c'est surveillé maintenant. Enfin voilà, que c'est ça qui empêche les gens de traverser les mers, et donc et que du coup les politiques migratoires prennent plein d'autres formes maintenant qu'un mur. Enfin, mais c'est quand même, on se disait que c'était important, intéressant d'en parler, parce que mine de rien, il y a eu 10 000 km de murs qui ont été construits ces 10 dernières années, que du coup, c'est pas un truc qui a été totalement remplacé par d'autres technologies et d'autres formes de contrôle, comme Eurosur dont on a parlé. Enfin voilà, du coup, c'est quelque chose, il y a des murs qui sont en train de se construire, il y a des nouveaux projets de murs, donc du coup, c'est une... C'est une manière de contrer, d'empêcher la migration donc des pauvres, hein, forcément. Comme d'habitude, c'est toujours les mêmes qui ne peuvent pas passer du côté qui veulent de la barrière, quoi. Quand on est riche et avec un passeport français, on va à peu près où on veut, forcément. Et du coup, bah, ces murs, ils sont, on voit justement qu'ils se mettent... Souvent, ils se placent à des endroits où il y a des fortes discontinuités de niveau de vie entre deux pays ou entre deux territoires. Et du coup, par exemple, il y a un différentiel de PIB de 1 à 16 entre le Maroc et les enclaves espagnoles, et de 1 à 6 entre le Mexique et les États-Unis. Voilà, c'est pour donner des exemples et pour montrer que bah, ça se met, mine de rien, les murs, ils sont bien entre pays pauvres et entre pays riches, quoi. Et qu'ils sont toujours d'actualité pour empêcher les gens de passer, que c'est toujours quelque chose utilisé par les États pour empêcher la migration, enfin, que ça fait partie de leur politique migratoire. On va commencer à parler peut-être d'un mur spécifique. Voilà, on va aborder quelques murs avant de parler des murs aux frontières de l'Europe, de l'Union européenne. On va parler déjà des murs en Israël avec Martin.
Oui, alors en Israël, il y a le mur le plus connu peut-être, le plus horrible, bon, c'est celui qu'ils construisent. Ça fait maintenant 10 ans qu'il est en construction, qu'il avance petit à petit. Alors c'est en principe un mur qui est destiné à protéger Israël des attentats palestiniens et qui sépare donc Israël des territoires occupés de Cisjordanie, en principe. En réalité, le mur fait de nombreuses incursions à l'intérieur du territoire cisjordanien. Il passe, c'est un ouvrage assez considérable, avec en fait un double mur, un du côté cisjordanien, un du côté Israël, et ça représente tout un terrain qui est dévasté. Des arbres, en particulier les oliviers, qui sont très importants pour la survie des Palestiniens, qui sont rasés. Des paysans qui ne peuvent plus accéder à leurs terres parce qu'elles sont de l'autre côté du mur. Et face à ça, d'ailleurs, il faut dire qu'il y a aussi des résistances, des Palestiniens qui se rassemblent à l'endroit où on doit faire le mur pour... sinon empêcher les travaux, du moins les retarder. Quelques volontaires internationaux et des Israéliens auxquels il faut rendre hommage qui viennent les appuyer. Bref, c'est une affaire importante, ce mur qui est en construction depuis 10 ans. Mais maintenant, Israël a un problème de plus, c'est qu'il a des Africains qui viennent se réfugier en Israël. Israël utilise maintenant de la main-d'œuvre immigrée autre que les Palestiniens, qui ne sont d'ailleurs pas des immigrés, mais qui ont besoin d'un permis spécial pour venir travailler en Israël. Mais du coup, Israël utilise aussi des travailleurs étrangers, surtout chinois et thaïlandais, pour lesquels ils ont un système de quotas. Mais aussi, il y a des Africains qui fuient leur pays, surtout des Somaliens et des Éthiopiens qui viennent se réfugier en Israël où ils demandent le statut de réfugié, qui leur en y reviendra. Il est très peu accordé. Mais pour se protéger de cela, Israël maintenant construit un autre type de mur qui est le mur du type dont nous parlons surtout aujourd'hui. À base de celui-là, essentiellement de grillage et de lames de rasoir, pour séparer Israël de l'Égypte, pour éviter que les réfugiés africains viennent se réfugier en Israël. Ce mur, ça fait 230 km de long et il vient d'être terminé. Et on verra s'il est efficace ou non. En tout cas, avant de passer à d'autres pays et de revenir à la question des murs, on va compléter un peu l'information sur Israël, où il y a eu du nouveau ce mois-ci. D'abord le 5, où plus de 30 000 Africains ont manifesté à Tel Aviv pour leurs droits, pour demander que leur demande d'asile soit examinée, parce que ça traîne pendant des années et même ils refusent de les examiner. Ils en mettent certains dans des camps moitié prison, moitié un peu ouverts, mais tout juste pendant la journée. Et Donc, ils ont été à 30 000 à Tel Aviv pour protester contre ça le 5 janvier dernier. Et le 15, ce sont 2 000 femmes qui ont manifesté toujours à Tel Aviv devant le commissariat aux réfugiés et l'ambassade américaine pour réclamer, elles aussi, les mêmes droits. Voilà donc pour Israël quelques informations.
Et maintenant, on va parler des murs qui entourent les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Donc, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission, puisque souvent, on revient sur les tentatives réussies ou ratées de passage du Maroc dans ces enclaves, puisque donc, elles sont situées sur la côte méditerranéenne du Maroc. Alors, Melilla, ça fait 12,3 km² et Ceuta, 19 km², donc c'est tout petit. Et c'est les seules voies terrestres pour accéder à l'Europe depuis l'Afrique. Donc, le mur à Ceuta et à Melilla, il était construit en 2001. À Ceuta, il fait 8 km. Et il a été construit côté espagnol et financé en partie par l'Union européenne, donc ça a coûté 30 millions d'euros. Et il est composé de deux rangées de barrières, de part et d'autre d'une route, qui permettent à des véhicules de patrouille de passer. Et aussi, il y a un réseau de câbles souterrains qui sont reliés à des capteurs électroniques de bruit et de mouvement, un système d'éclairage forte puissance qui est allumé toute la nuit et des caméras qui sont dotées d'équipements de vision nocturne. Et à Melilla, donc c'est exactement le même mur, construit de la même manière. Et cette fois, il fait 12 km. Et en 1998 aussi, donc 3 ans avant la construction du mur, la ville et le gouvernement espagnol ont construit un centre d'enfermement pour immigrants dans la ville de Melilla, qui est co-géré par la Croix-Rouge et par une association catholique. Et donc quand les migrants parviennent à franchir la barrière, puisque malgré tout, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui passent, ils sont enfermés dans ce centre, en attendant soit d'être expulsé, soit d'être amené sur le continent européen en Espagne. Et donc, il y a beaucoup de gens qui passent, puisqu'en fait, C'est quand même une des voies qui reste les plus simples, entre mille guillemets, pour accéder à l'Europe. Que le détroit de Gibraltar, il est complètement surveillé et que ça reste une des routes principales pour beaucoup de migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne et qui vivent soit dans les villes qui sont assez proches. Donc il y a des quartiers au Maroc, des quartiers d'immigrants où d'ailleurs la police, on en a beaucoup parlé aussi, la police marocaine fait régulièrement des rafles. Et il y a aussi des campements dans les forêts qui sont aux alentours des deux enclaves. Et pour continuer un peu sur l'histoire de ces deux murs, en janvier 2005, il y a le roi d'Espagne, Juan Carlos, qui est allé en visite au Maroc. Et à ce moment-là, la police marocaine et l'armée ont évacué tous les campements de migrants dans les forêts aux abords des enclaves, donc des dizaines d'arrestations, des dizaines de blessés et des déportations dans le désert, puisque la technique favorite du gouvernement et des flics marocains, c'est d'embarquer les gens dans des camions et de les lâcher en plein désert à la frontière avec l'Algérie. Donc là, les gens, évidemment, crèvent de soif, de faim, etc. Et donc ça, ça a commencé en janvier 2005. Et ça s'est poursuivi pendant une bonne partie de l'année 2005. Donc, on va beaucoup parler de l'année 2005, puisque c'est quand même une année assez cruciale sur ce qui s'est passé à Ceuta et à Melilla. Et, mais en fait, à ce moment-là, les migrants, ils ont réagi. Une bonne partie d'entre eux sont revenus dans les forêts, se sont organisés et ont décidé de prendre d'assaut les grillages, à l'aide notamment de grandes échelles construites par eux dans la forêt en bois. Et par exemple, le 29 août, il y a 300 personnes qui ont tenté du côté de Melilla de prendre d'assaut la barrière. Et donc, ils ont été repoussés à coups de balles en caoutchouc. Et il y a un petit groupe qui a été encerclé par la Guardia Civile espagnole, qui a fait l'objet d'un acharnement particulier, qui ont été tabassés, et il y a eu plusieurs blessés graves et un mort. Et toujours en 2005, en septembre, il y a eu plusieurs assauts, il y a 800 personnes la nuit du 27 septembre qui tentent de passer à Melilla, et il y en a 300 d'entre eux qui vont y arriver. Et donc un petit pied de nez, puisque c'est la veille de l'ouverture du sommet Espagne-Maroc à Séville, qui doit notamment parler des questions d'immigration. Et le lendemain, 500 autres personnes qui tentent de passer. Et cette fois, la police marocaine a tiré à vue en faisant deux morts par balle et plusieurs blessés. Et donc ainsi de suite jusqu'en octobre. En octobre 2005, il y a 650 nouvelles personnes qui partent à Melilla, 300 qui passent, mais il y a encore des gens qui se font tuer. Et deux jours plus tard, encore une fois, un nouvel assaut de plusieurs centaines de personnes. Et donc, là, il y a quand même les gouvernements marocains et espagnols commencent à se dire « oulala ». Et donc, ils demandent des aides supplémentaires à l'Union européenne, qui sert à la fois à poursuivre les rafles et les expulsions, et aussi à augmenter la taille de la barrière, puisque donc elle était de 3 mètres et ils l'ont surélevée de 6 mètres. Et après, plus récemment, enfin déjà sur l'année 2005, il y a deux, pour les personnes qui ont accès à Internet et qui sont dehors, il y a deux textes à lire qui sont vraiment très intéressants. Il y a un texte qui s'appelle « À l'assaut de Ceuta et Melilla », qui est trouvable en tapant ce titre dans Google, donc « À l'assaut de Ceuta et Melilla ». Et sinon, il y a le livre noir de Ceuta et Melilla, qui revient sur les rafles, les expulsions dans le désert et les tentatives d'assaut, avec plein de témoignages de gens qui étaient là à ce moment-là. Et sinon, donc plus récemment, parce qu'il y a toujours des gens qui tentent de passer. Et par exemple, le 17 septembre 2013, il y a 300 migrants qui ont franchi la frontière entre le Maroc et l'Espagne dans l'enclave de Melilla, enfin qui ont tenté, il y en a une centaine qui ont réussi. mais il y a plusieurs blessés. Et il y a eu quand même des affrontements avec les flics, puisqu'il y a 6 d'entre eux qui ont été blessés à coups de pierre. Et toutes les personnes qui ont réussi à franchir la frontière ont été arrêtées par la police et ont amené au centre d'enfermement dont je parlais tout à l'heure. Et en réaction face à ça, donc il y a eu plusieurs autres assauts. En novembre, les autorités espagnoles ont décidé de mettre un maillage anti-escalade, comme ils appellent ça, pour renforcer encore la frontière, les grilles qui sont hautes de 6 mètres. Et donc maintenant, elles sont rehaussées par des lames de rasoir. Donc la plupart des gens qui ont essayé de passer après se sont retrouvés les mains et les jambes complètement tailladées par les lames de rasoir. Mais il y a toujours des gens qui essayent de passer. Et en février 2013, donc là, ce mois-ci, il y a... le 6 février 2014, 400 migrants qui auraient tenté aussi de passer la frontière en séparant le Maroc de Ceuta. Et ils sont, à ce moment-là, la police marocaine est intervenue. Personne n'est parvenu à passer, mais du coup, il y a un groupe qui a tenté de passer à la nage. Et parce que donc ils sont passés dans une zone à l'extrême ouest. Et il y a 8 personnes qui sont mortes, noyées. Et sinon, quand même, alors c'était je cherche dans mes notes, je ne retrouve plus. Ah oui, c'était en février 2013, donc voilà, il y a un an. Il y a 11 migrants qui ont forcé les grilles d'un des postes frontières situés le long de la barrière à coups de voiture bélier. Donc pareil, les gens qui ont internet, il y a une vidéo qui est extraite des caméras de vidéosurveillance, où on voit deux flics espagnols en train de courir en panique pour refermer les grilles qui ont été ouvertes et puis qui manquent de se faire percuter par une voiture qui arrive à plus de 100 km/h.
Ce qui aurait été un juste retour de bâton, on peut le dire.
Et peut-être on va mettre un peu de musique avant de passer aux autres murs.
Raja, la J-Rap, Damasco, Milano, Siria, Italia. Il tempo del silenzio è finito, ora alza la voce.
Zaman sukun, intaha min zaman. Ilishu zulun, imrafe il insan. Ilazem itfi, utasha min ahlam. Wa tasamt rah min kalam. Zaman sukun, intaha min zaman. Ilishu zulun, imrafe il insan. Ilazem itfi, utasha min ahlam. Wa tasamt rah
سكوت بلا مبرر الخوف هو المدمر يمكن انت المقرر للناس اللي عم بتعاني بس للاسف انت اناني ما هذا الك اخ عم ينطخطخ يمكن يجيك الدور وتوقع بالفخفخ فتره كبيره من الزمن عايشين بالظلم خايف انه يجوك ياخذوك من الحلم سلم مع السلم ما انت على علم انه الناس عندها حلم انه يعيشوا مثل طيور مو انه يكونوا على الارض وبنفس الوقت بالقبور قصور هن المالكين صخور نحن مكسرين حتى نطالع لقمه صغيره بتوصل ما بتوصل هي حكمة رب كبيرة يمكن أنا بفهم أو هن بيفهموا بس الحق هو اللي بيحكم على الناس تجردوا من صفات الإنسانية بدهم يمحوا الأرضية بس ما تاخذ المكان حتى يضل الظلم عايش بطابع الأمان
زمن السكوت انتهى من زمان ليش الظلم مرافق الإنسان لازم تفيق وتصحى من الأحلام وتصمت راح بالكلام زمن السكوت انتهى من زمان ليش الظلم مرافق الإنسان لازم تفيق
Dove varchi la frontiera Le foto del padrone sono icone come in chiesa Sul volto le persone hanno tratti di terrore Se strappi i suoi ritratti se sei solo un traditore Navighi, comunichi, hanno le tue impronte Spostati, poi accorgiti che sono al corrente Ora sali in macchina e non dire niente Che se gridi o tacila non è differente Oggi come sempre apparato onnipotente Al controllo sopra i sonni della gente Di giorno ad alta voce, regime morirai La notte dormo altrove per evitare rai Ci si organizza, presidi e picchetti Che non salgano i cecchini a fare cidi dai tetti Sposta una grossa pietra all'ingresso del vicolo Chiudiamo accesso e entrata ad ogni veicolo
Zaman sukut, intaha min zaman Ilish al-zulm, imrafiq al-insan Lazem tfiq, utasha min al-ahlam Watasamt rah bil-kalam Zaman sukut, intaha min zaman Ilish al-zulm, imrafiq al-insan Lazem tfiq, utasha
الفقير يلي هدول عندهم ضمير يلي غنيتي هلا ما في حارف تزوير رح بلش الكلام حتى تسمع التفسير مساعدات خارجية بالمقابر الجمعية مجهولين الهوية صور حقيقية عن القضايا الإنسانية خلص هو الظلم وانطفى أكبر حلم مع العلم إنه في سلم بؤر الفساد خربت هالبلاد ارتداد بالقدرات خيانات مؤامرات بتطور الأفكار بتحكم الأشرار مشان تقول شوفي هيك هون كمان شو اللي صار تعقيد بالتخطيط تصويت بالتركيب مشان يصير في ترهيب ويزبط التكتيك تسفيق ورا تلفيق مسرح زمن السكوت وصرنا بعصر الضغوط سأمت من الصمت ولا زمن الإهانة وصرنا بعصر الكرامة زمن السكوت انتهى من زمان ليش الظلم مرافق الإنسان لازم تفيق وتصحى من الأحلام وتصمت راح بالكلام زمن السكوت انتهى من زمان ليش الظلم مرافق الإنسان لازم تفيق وتصحى من الأحلام وتصمت راح بالكلام
Scari che nelle vertebre Fotti la paura Non hai più nulla da perdere Non serve un segreto L'oretto, la fine Dopo ci rialziamo E varchiamo il confine
الحياة دايما برجوع والسكوت معك ممنوع ليش الظلم وليش الجوع إذا الهدف بعده مصنوع ليش الموت مع الخضوع خليلي راسك مرفوع تقدم تندم متحطم ما في رجوع
الحكي يمكن ما بيفيد بس بيخلي الناس تعيد التفكير بهالحياة ليش خلقنا بمعاناة بس إرادة من حديد والتصميم من نوع فريد أنا بحكي كلمة حق ونحن رجعنا من جديد
زمن السكوت انتهى من زمان ليش الظلم مرافق الإنسان لازم تفيق وتصحى من الأحلام وتصمت راح بالكلام زمن السكوت انتهى من زمان ليش الظلم مرافق الإنسان لازم تفيق وتصحى من الأحلام وتصمت راح بالكلام لاجئنا الراح
Vous êtes toujours sur FPP 106.3 et c'est l'émission Sans Papiers ni Frontières, l'envolée qui continue.
Et avant de reparler des murs, je profite juste de l'occasion de vous dire que le morceau qu'on vient d'écouter était du groupe de rap Refugees of Rap qui jouera demain au Transfo, 57 Avenue de la République. C'est donc un groupe de rap...
À Bagnolet. 57 Avenue de la République à Bagnolet, excuse-moi.
C'est pas grave. C'est donc un groupe de rap du camp de Yarmouk en Palestine.
Non, et en Syrie.
En Syrie bah,
c'est des Palestiniens réfugiés en Syrie.
Des Palestiniens, donc, réfugiés en Syrie. Et ils joueront donc à un concert en solidarité avec les pirates somaliens emprisonnés en France. On reparlera un peu du concert en fin d'émission.
Et du coup, on va continuer ce petit topo sur les murs en parlant un peu de la Grèce. Donc la Grèce, quand même, a un contexte particulier où il y a quand même une grosse guerre contre les immigrés qui est faite à la fois par le gouvernement aidé de sa police et la police aidée par le parti néo-nazi Obdoré. Qui est d'ailleurs au gouvernement depuis au Parlement depuis mai 2012 et qui travaille main dans la main avec les flics.
Ouais, d'ailleurs juste une petite anecdote à ce sujet. Un camarade grec m'avait raconté il y a pas si longtemps que ça arrivait que des gens appellent les flics le soir et que les flics répondent nous on est trop occupés là appelez plutôt la milice en parlant d'Obdoré justement.
Oui, parce qu'ils sont organisés en milice et ils paradent dans les rues de manière militaire et puis ils vont défoncer à l'occasion les marchés où il y a des immigrés, ils vont défoncer des gens qui vendent à la sauvette dans la rue, ils vont défoncer des grévistes et tout ça. Et du coup, voilà, et il y a déjà eu plusieurs morts, notamment... des immigrés et aussi là il y a quelques mois en septembre, le 18 septembre il y a un militant antifasciste aussi qui a été assassiné à coups de couteau par des membres du parti néo-nazi Obdoré, mais je crois qu'ils se sont pris un bon retour dans la gueule après puisqu'il me semble qu'il y en a deux qui se sont fait tirer dessus à la sortie d'un bar. Chez. Et donc, il y a aussi un programme du gouvernement. Donc voilà, c'est la crise hein, en Grèce, tout le monde est au courant, j'imagine. Et donc, bien facile d'accuser les immigrés et tout ça, et donc de trouver un ennemi pour souder la nation grecque. Et le gouvernement a mis en place un programme, on va appeler ça comme ça, de rafles, avec l'opération Zeus. Donc, c'est une opération où des descentes de flics pendant plusieurs semaines dans plusieurs villes, et qui s'est soldée par des milliers d'arrestations. Et en parallèle, un programme de construction des centres de rétention, lancé en avril 2012, financé en partie par l'Union européenne, et qui prévoit l'ouverture en 2014, donc là on y est, de 30 000 places dans les centres de rétention en Grèce. Et donc il y a aussi l'idée, en janvier 2011, qu'émerge, proposé par le ministre de la Protection des Citoyens, Christos Papoutsis, de construire un mur entre la Grèce et la Turquie, puisque c'est une frontière donc, qui est délimitée par la rivière Evros, frontière entre la Grèce et la Turquie, qui est un point de passage, un point d'entrée de beaucoup de migrants en Europe, qui fait 206 km de long. Et du coup, il y a cette proposition qui est en août 2011, donne des plans de construction. Et donc, c'est sur une portion de 10 km, deux murs parallèles constitués de fils barbelés renforcés et fixés sur des piliers à hauteur de 2,5 mètres à l'extérieur, donc le mur extérieur, et le mur intérieur de 3 mètres de haut. Et entre les deux murs, du fil barbelé. Donc, le projet, les travaux ont débuté le 6 février. 2012, et tout ça pour 5,5 millions d'euros, et il s'est terminé en décembre 2012. Donc voilà, un mur de 12,5 km et qui a nécessité 6000 mètres cubes de béton, 800 tonnes d'acier et 370 km de fil barbelé.
Récemment, il y a eu un événement donc, assez morbide qui montre la volonté de la Grèce de faire la guerre aux migrants, quoi. Parce que dans la nuit du 19 au 20 janvier dernier, là, il y a eu une embarcation, donc un petit bateau de pêche avec des personnes afghanes et syriennes. Donc, 27 personnes, il y avait en tout, donc, qui étaient parties du port turc de Dini. Et qui sont tombés en panne à proximité de l'île de Pharmakonissi, donc une île grecque. Et ils ont été trouvés par les gardes-côtes grecs qui ont relié les deux bateaux et qui ont commencé à les remorquer vers la Turquie, vers les côtes turques. Et donc apparemment, ils allaient super vite, beaucoup trop vite, et il y avait de l'eau... Le bateau commençait à tanguer, de l'eau qui commençait à rentrer dans le bateau. Et du coup, il y a des gens qui se sont réfugiés dans la cabine, et donc surtout les femmes et les enfants, qui sont allés s'enfermer dans la cabine pour ne pas prendre l'eau, quoi. Et sauf que le bateau a fini par se renverser. Du coup, il y a tous les gens qui étaient dans la cabine qui se sont retrouvés bloqués. Et même ceux qui n'étaient pas dans la cabine, en fait, ils essayaient de monter sur le bateau des gardes-côtes qui les frappés, qui les rejetés dans la mer, quoi, qui essayaient de les empêcher de sauver leur vie, quoi. Donc il y a quand même eu 16 survivants, mais bon, sur 27, donc ça fait 11 personnes qui sont mortes ou disparues, mais bon, c'est-à-dire mortes, quoi. Et du coup, les 16 survivants, voilà, c'est eux qui ont témoigné de ce qui s'est passé. Et il y a une enquête qui a été ouverte, du coup, mais sauf qu'ils doivent, maintenant ils sont en Grèce, mais ils doivent quitter la Grèce sous 30 jours, quoi, donc... À tous les coups, ils ne seront plus là. S'il y a un procès ou quoi que ce soit, ils ne seront plus là pour dire ce qui s'est passé de toute manière, quoi. Et en tout cas, on voit... ça me fait penser à tout le battage médiatique qu'il y a eu après le naufrage de Lampedusa, notamment, c'était en novembre dernier,
ouais.
Où il y a ces 400 personnes, je crois, qui sont mortes pendant un naufrage. Et où il y a eu tout un battage médiatique avec l'Europe, voilà, qui pleure sur la mort des gens en mer. Et donc bon, on voit bien, ça montre bien pourquoi est-ce que les gens meurent, quoi, et que les gardes-côtes, ils sont pas là pour sauver les gens, ils sont là pour les empêcher de passer. Et si c'est au prix de leur mort, ils s'en foutent, quoi. tant qu'ils ne sont pas sur le territoire grec, ça, c'est tout ce qu'ils cherchent, quoi.
Et y a quand même des gens qui luttent contre les arrestations, contre les camps et tout ça. Et le samedi 11 janvier, il y a une manifestation à Athènes contre les centres de rétention qui a rassemblé 800 personnes. Et il y a aussi quand même souvent des initiatives de solidarité contre les rafles, des interventions quand il y a la police qui fait des descentes et des manifestations devant les centres de rétention quand il y a des révoltes à l'intérieur. Et voilà, il y a aussi à Athènes une assemblée d'immigrés et de solidaires qui se réunit dans la faculté d'économie d'Athènes et qu'organise souvent des rassemblements, des manifestations, etc.
Je vais parler de la Bulgarie maintenant, parce que du coup, vu que la Grèce, c'est de plus en plus compliqué de passer, il y a la Bulgarie qui est devenue un peu la nouvelle porte d'entrée dans l'Union européenne pour les migrants. Et du coup, il y a un mur aussi qui est en train de se construire, qui va commencer, la construction elle va commencer en février, bientôt elle va commencer. Le projet, c'est un mur de barbelés long de 33 km, donc à la frontière avec la Turquie. Donc c'est une frontière qui fait 259 km en tout. Mais la zone où ça va être construit, ce mur, c'est une zone forestière où les gardes frontières, ils ont du mal à voir ce qui se passe. C'est très boisé, c'est une région montagneuse aussi. Et en fait, c'est là que passent 85% des migrants. Et donc voilà, beaucoup de migrants qui passent par cet endroit maintenant, et notamment des réfugiés syriens depuis le début de la guerre en Syrie. Pour donner un peu de chiffres, il y a plus de 2 millions de Syriens qui auraient quitté leur pays depuis le début du conflit, et dont 50 000 qui ont déposé une demande d'asile en Europe. Et bon, du coup, on se demande où se trouvent les autres, quoi. Selon les autorités bulgares, ce mur, c'est pour justement éviter que les gens passent par cette zone montagneuse et boisée qui est dangereuse, vu qu'on ne peut pas regarder ce qui se passe. C'est dangereux pour eux, les pauvres, et que du coup, ils veulent les rediriger vers les postes frontières et contrôler 100% des gens qui passent. Mais ce n'est pas pour refouler, soi-disant, c'est juste pour contrôler et pour la sécurité des gens, comme toujours. Et donc, c'est une zone qui est déjà protégée par des caméras thermiques financées par l'Union européenne. Et donc là, par contre, le mur, il ne sera pas financé par l'Union européenne, a priori. Mais en tout cas, du coup, c'est le troisième mur aux frontières extérieures de l'Europe, après le mur de Ceuta et Melilla et le mur grec, à la frontière grecque turque, entre la Grèce et la Turquie, dont Manu vient de parler. Et donc, en plus de ce mur, il y a d'autres mesures anti-migrants qui vont être mises en place par la Bulgarie. Il y a 2000 flics qui vont être envoyés en plus pour patrouiller à la frontière. Il y a des constructions de prisons pour migrants qui sont prévues, donc qu'ils appellent des centres d'hébergement de type fermé. Et il y a beaucoup d'expulsions aussi, beaucoup d'expulsions en ce moment. Tout comme en Grèce... l'arrivée massive de migrants, ça fait monter la xénophobie. Il y a toujours des gens pour se tromper d'ennemis et se dire que si c'est la crise ou je sais pas quoi, c'est parce qu'il y en a qui leur piquent leur boulot. Et du coup, il y a aussi une montée fasciste en Bulgarie. Avec le 9 novembre, par exemple, il y a eu une ratonnade d'un Bulgare musulman qui a été pris pour un Syrien. Et donc, qui a été tabassé par des FAF. Il y a eu une manifestation nationaliste aussi après le décès d'un Bulgare qui a été tué par un Algérien sans papier. Il y a aussi le parti ultranationaliste Ataka qui est en train de percer à fond. Et pour finir sur la Bulgarie aussi, il y a des camps de réfugiés donc, qui existent et qui sont connus pour être l'horreur totale. Pour noter quelque chose d'un peu positif, des petites révoltes, quoi, des petites résistances dans ces camps. Et par exemple, il y a, J'ai lu un truc où il y a des canalisations, les canalisations d'un camp qui ont été bouchées avec des couches et des serviettes hygiéniques pour protester contre les conditions dans lesquelles se trouvent les gens et contre leur enfermement. Et du coup, maintenant, je vais parler de la Turquie. Et donc, parce que voilà, c'est le phénomène d'externalisation des frontières. On en avait déjà parlé, où à chaque fois, ça se reporte. Donc voilà, c'était la Grèce, Schengen, la porte d'entrée. Bon, maintenant, ça s'est décalé. C'est en Bulgarie, donc qui est hors espace Schengen, mais qui appartient quand même à l'Union européenne. Mais sauf que, vu que la Bulgarie... La frontière, c'est avec la Turquie, donc les gens passent par la Turquie avant. Bah maintenant, ça se décale et ça va être, c'est en Turquie que la répression contre les migrants commence à se développer, quoi. Et du coup, en Turquie, il y a aussi un mur qui est en train de se construire. Qui est en train de se construire. Ça commence en novembre dernier. Et donc, c'est un mur de béton de 2 mètres de haut, qui est long de 7 km et qui est le long de la frontière avec la Syrie. Justement, et officiellement, c'est pour protéger les populations des mines antipersonnelles. D'accord, sûrement. Et donc, ça sépare deux villes jumelles, de Nusaybin et Kamesh Liye. Bon, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, désolé. Donc, ces deux quartiers qui étaient autrefois réunis, qui ont été divisés par le tracé de la frontière en 1921. Et c'est surnommé le mur de la honte, et parce qu'il y a notamment les Kurdes qui se battent contre la construction de ce mur, parce que ça renforce la séparation entre la population kurde qui se retrouve séparée des deux côtés, donc qui était déjà séparée des deux côtés de la frontière et qui maintenant vont se retrouver séparées des deux côtés d'un mur, quoi. Donc ce mur, c'est pas pour protéger. Enfin, on pense pas que ce soit pour protéger les gens des mines antipersonnelles, mais bien pour empêcher les migrants de rentrer en Turquie et notamment les Syriens. Donc où pareil, il y a eu beaucoup de Syriens qui se réfugient en Turquie depuis le début de la guerre. Je sais plus les chiffres. Je crois que c'est 600 000 Syriens qui sont en Turquie. Qui sont réfugiés en Turquie. Donc la Turquie, elle a d'autant plus intérêt à empêcher les migrants de rentrer sur son territoire qu'elle vient de signer un accord avec l'Union européenne. Donc l'accord, il a été signé le 16 décembre 2013. Donc ça faisait 2 ans qu'il était en négociation, cet accord. Il sort pas de nulle part. Et donc en fait, le deal, c'est... c'est un accord de réadmission, quoi. C'est que la Turquie va accepter de reprendre tous les sans-papiers qui auront transité par son territoire, tous les sans-papiers de l'Union européenne qui seront arrêtés ou il aura été prouvé qu'ils sont passés par la Turquie, quoi. Donc elle accepte d'accepter tout le monde en échange d'un processus de libéralisation des visas pour les ressortissants turcs, donc c'est qui devrait être mis en place d'ici 2017. Et donc du coup, ça, c'est-à-dire que si la Turquie remplit sa part du marché et que elle accepte d'accueillir entre guillemets les sans-papiers expulsés de l'Union européenne, ils pourront les ressortissants turcs, ils pourront se balader dans l'Union européenne sans avoir besoin d'avoir un visa, quoi. Et du coup, à la frontière avec la Bulgarie, dans une zone de 20 km au-delà de la frontière, il y aura dans cette zone, la procédure d'asile, elle sera simplifiée. Et du coup, les migrants, ils auront 3 jours pour déposer leur demande et 5 jours pour rebrousser chemin en cas de refus. Donc, sachant que normalement, une demande d'asile, ça met au moins 6 mois à être traitée, c'est assez étonnant. Et du coup, la Turquie aussi, en plus de ce mur, elle prévoit d'autres... Il y a d'autres mesures qui sont prises pour empêcher les migrants de rentrer sur son territoire, parce que forcément, elle a pas les autorités turques, ils n'ont pas envie de récupérer tous les gens, tous les sans-papiers qui seront passés par son territoire et qui seront partis après dans l'Union européenne. Et du coup, elle va empêcher directement les gens de rentrer sur son territoire, en fait. Donc, c'est le but de ce mur. Et c'est le but aussi des autres mesures. Et donc, par exemple, il y a un groupe civil de protection de la frontière qui va être créé. Donc, c'est un truc, en fait, comme du genre de sur le modèle de Frontex. Donc, ils vont créer ça en Turquie. Et il y a des centres de rétention qui vont être construits pour enfermer les gens qui seront refoulés aussi en Turquie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur la Turquie ? Que y a... Peut-être, Martin, tu voulais dire quelque chose, non ? Non ? Ok, excuse-moi. Et oui, en Turquie, le statut de réfugié aussi, il peut pas être... Il y a un truc particulier, c'est un peu bizarre, je suis pas sûre d'avoir bien compris, mais que... On peut pas avoir le statut de on peut obtenir le statut de réfugié seulement si on a fui suite à des événements qui se passent en Europe. Donc c'est-à-dire que tous les gens qui fuient par exemple la guerre en Syrie, ils peuvent pas du tout être concernés par le statut de réfugié en Turquie, quoi. Aussi la Turquie, en plus d'empêcher de se protéger suite à cet accord de réadmission, son autre intérêt à empêcher les gens de rentrer sur son territoire, c'est que en plus, c'est plus seulement un pays de transit. Maintenant, la Turquie, c'est aussi un pays où les migrants s'installent parce que il y a eu une évolution du niveau de vie ces dernières années. Enfin voilà. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la Turquie.
Moi, je voulais dire que du coup, en tout cas, les murs dont on a parlé, on en a parlé quand même de pas mal, mais c'est pas du tout une liste exhaustive. Des murs, il y en a plein d'autres. Il y en a entre le Zimbabwe et le Botswana, il y en a entre le Maroc et la Mauritanie, il y en a entre le Bangladesh et l'Inde. Et c'est que des exemples. Peut-être que j'ai pas toute la liste non plus.
21 000 kilomètres.
21 000 km, la moitié du tour de la Terre. Voilà.
Et là, il y a un projet d'en construire un entre le Maroc et l'Algérie aussi. Puisque le Maroc, maintenant, va essayer d'empêcher les migrants de rentrer sur son territoire et essayer de bloquer les gens à la frontière avec l'Algérie.
Ça va être pratique pour les gens. Il faudrait qu'ils
se mettent d'accord pour savoir où est la frontière aussi. Ça ne sera pas simple.
Et puis ça va être pratique pour les Marocains qui se font passer pour Algériens et qui se font expulser en Algérie. Enfin bref, bon, et ben en tout cas, les États, les partisans des frontières, etc., ils pourront bien faire des murs. Ça n'empêchera pas les gens d'essayer de passer et de chercher la liberté.
Et ben on va écouter un peu de musique.
Hasta los barrotes de la cárcel y hasta los millones que más. Tú tienes que volar, tú tienes que volar. Y esa paloma blanca buscando la libertad, buscando la libertad, buscando la libertad. Lucha por la libertad, tra, tra. Lucha por la libertad, tra, tra. Lucha por la libertad, tra, 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 tra. Lucha por la libertad.
Falta chito, chico, se te va a caer un mito, inflando a hostias a tu rapper favorito, pero es calladito, llega el calor, llega el veranito, los litros fresquitos en el venerito, cruzo la puerta y suenan los pitos, corre, corre, que me pilla gordito, esta noche duermo en Leganitos, desde niñato viviendo delito. Siempre estoy en el marrón, viendo el tirón como una misión. Suena bordón, cuatro y camarón, dame ron. Esa es mi puta medicación, nadie tiene nunca toda la razón. Y menos un juez cabrón, abajo los muros de cada prisión. Cinco puntos tatuados en mi corazón. Tengo un moratón en la mejilla, el vaquilla nunca se arrodilla. Mi cordón brilla, también mi cuchilla. Si no lo pillas, cómeme la polla. La España profunda, yonkis en cundas, trapis, banda, funky, quitándole al nazi la bufanda. Un BMW estampado en la rotonda, él tiene que volar, salvar su alma, desaparecer cuando suenen las alarmas, llegar a su casa, limpiar el arma y partirse la polla del karma. Lucha por tu libertad, espabila, tapa tu cara, cámaras vigilan, mamá intranquila, quitan la mochila, llegar a casa y misión cumplida.
Sigo con los cascos de camino a casa, suena la música de ataque. Sigo de los nervios, la cabeza en desparrame. Sigo escuchando Non Servium, 16 años destronado. Tiempos mejores todavía no han llegado. Compadre, de Madrid al cielo, no te confundas, te lo explico en un momento. No hay hueco pa' mamonadas, ya van dos veces que voy al cementerio en estos meses. Claveles por rosas, sale caro hasta el recuerdo. Tardes en la fábrica, en Vallecas, pam pam, con el insano Carlos, hecho en el infierno. Luego porros y cine kinky, tranquilo, en el hielo. Soy más que tú, triste de los cojones. Todos tenemos un talón de Aquiles. Pecas del pipón si no lo reconoces. Estas calles no cuidan de sus renegados. Que me he quedado todo doblado, asimilando el asunto en la plaza con el perro. ¿Quién es el plota? ¿Quién es el chota? Aquí se muere por la boca. Quieras o no quieras, vas a morir por la boca, tronca. Es mi horca la que cuelga de tus labios. Sonido de estos radio fans. Stand your ground como en hooligans. Llámame medieval. Autocastigo, sí, caigo en la deshonra. Como los chichos primo. El campo de la bota, clic, clac, flamenco, un 13 en el pecho, debajo los 5 puntos. Si no va contigo, ¿por qué coño hace bulto? Si me recorro el barrio por 20 pavos, pa' que quiero milagros y no puedo pagarlo. Punky chandaleros como botellón de castigo, canelita tío, se najan, chindan. Eres de los que no lo pillan y al final pillan. Infectando tu vecindario, negrita bad nights. Un día vamos a morir a navajazos. Un día vamos a morir a navajazos, puta. Negrita bad nights. Un día vamos a morir a navajazos, puta.
Vous êtes toujours sur FPP 106.3, l'émission Sans Papiers ni Frontières, l'envolée jusqu'à 20h30, du coup il reste quelques minutes. Je vais rappeler les numéros s'il y a des gens qui veulent passer des messages, il y en a déjà. Alors c'est le 01 40 05 06 10. Et le numéro du téléphone portable 06 50 07 52 32. Mais du coup, on va passer à l'agenda. On va commencer par demain. Demain, il y a un concert de soutien aux pirates somaliens emprisonnés en France. C'est à partir de 19h au Transfo, 57 avenue de la République à Bagnolet. Donc c'est métro Gallieni sur la ligne 3 ou métro Robespierre sur la ligne 9. Et il y aura un bar et à manger. C'est prix libre, l'entrée, le bar et la nourriture. Et les groupes, c'est Julie Colère, Punk de Paris, Gazmask Terror du Hardcore de Bordeaux, Refugees of Rap du rap, donc on en a parlé, de Syrie-Palestine, Singe des Rues du rap d'Ariège. Alors il y a un petit texte, du coup je vais le lire. En Somalie, face à la famine, à la destruction des ressources en poissons par la pêche industrielle occidentale et à l'immersion des déchets toxiques le long des côtes, devenir pirate est à la fois un moyen de survie et un acte d'autodéfense. En récupérant les richesses de l'un des axes maritimes les plus importants de la planète, les pirates somaliens ont fourni le prétexte à l'intervention des principales marines de guerre et à une législation d'exception permettant aux forces militaires des États occidentaux de débarquer n'importe où en territoire somalien. Aujourd'hui, cette zone du globe est donc devenue un laboratoire d'expérimentation pour tous les militaires, paramilitaires et conseillers en sécurité de la planète qui peuvent y tuer et capturer, sous couvert de la loi, tous ceux qu'ils soupçonnent de s'adonner à ce qu'ils ont défini comme étant de la piraterie. Actuellement, plus de 1000 Somaliens étiquetés pirates croupissent dans des geôles à travers le monde, capturés par les forces armées et ramenés dans des bateaux qu'ils ont pris en otage. En France, entre 2008 et 2011, 22 Somaliens ont ainsi été enlevés pour y être incarcérés et jugés. 15 d'entre eux ont déjà été jugés, parmi lesquels 8 sont en train de purger des peines de prison qui vont jusqu'à 10 ans. 7 autres sont toujours en détention préventive et attendent leur procès, qui devrait avoir lieu en 2014 ou en 2015. Parce que nous savons qu'en tôle, tout a un prix, téléphoner, acheter du PQ, manger à peu près correctement, mais aussi parce que la guerre contre les pirates est l'une des facettes extrêmes de la guerre aux pauvres, nous souhaitons apporter un peu de solidarité aux 15 pirates somaliens encore incarcérés en France. L'argent du concert servira donc à leur envoyer des mandats.
Et dimanche, là après-demain, dimanche 9 février, il y a une manifestation contre tous les fascismes dans le 18e arrondissement. Donc c'est à 14h au métro Jules Geoffrin, sur la ligne 12. Et dimanche 16 février, il y a un concert de soutien au collectif des Barras. Donc collectif des Barras, on en a parlé le mois dernier avec l'interview d'Amadou. Donc c'est un collectif de sans-papiers à Montreuil. Et donc le concert sera donc dimanche 16 février à 17h au CICP, donc l'adresse 21 Terre rue Voltaire, métro rue des Boulets ou Nation. L'entrée c'est 5€. Et voilà, une autre soirée de solidarité, cette fois-ci aux personnes homosexuelles en Ouganda. Donc c'est une soirée présentée par la troupe TUK, Talented Ugandan Kutchus.
Pardonnez-la pour l'accent.
Et donc je vais lire le petit texte du Fly. Dans le contexte des répressions croissantes de personnes LGBT en Ouganda, un groupe d'artistes militants a monté une pièce contre la persécution et l'homophobie. Le spectacle, banni en Ouganda, est aujourd'hui réinterprété par les artistes exilés en France. C'est une occasion rare de voir ce spectacle courageux, drôle et émouvant, et d'apporter un soutien aux artistes. Donc voilà, ce sera vendredi 21 février, c'est à La Parole Errante, donc au 9 rue François de Bergue à Montreuil. C'est métro Croix de Chavaux sur la ligne 9 et l'entrée c'est 5€. Voilà.
Et alors le samedi 1er février, il y aura un rassemblement
Mars.
Oh là là, j'ai du mal. Donc le samedi 1er mars, je recommence. Il y aura un rassemblement contre l'occupation policière à Belleville à 15h. Pour rappel, ça fait déjà bientôt un an qu'il y a des ZSP qui ont été créés en France et notamment à Barbès, pour le moment à Paris, il y en avait une, c'était celle de Barbès. Et du coup.
Et Stalingrad, dans le 13e, il y en avait trois.
Oh merde, je dis que des conneries. Et donc, en tout cas, à Barbès comme à Stalingrad, d'ailleurs, on a pu voir des camions de CRS à tous les angles de rue. Et donc, des petits groupes de CRS qui patrouillaient partout dans la rue, à l'affût de la moindre personne dont la peau est un peu trop foncée, qui pourrait passer pour un sans-papier, ou bien qui pourrait vendre de la drogue ou bien d'autres choses, ou bien qui pourrait avoir l'air... Enfin bref, toutes les petites illégalités y passent, quoi. Et donc, ça fait quelques mois qu'il y a des tables... et des divs de tract à Barbès qui parle un peu de la restructuration des rafles et de l'occupation policière qui d'ailleurs est en train d'empirer vu la création prochaine d'une BST c'est d'une BST comme celle qui a été créée il y a quelques années à Belleville.
Une brigade de flics spéciale qui peut intervenir sur plusieurs arrondissements en même temps, puisque le quartier Barbès est à cheval sur 3 arrondissements.
Le 10e, le 18e.
Et le 9e.
Voilà, et d'ailleurs à Belleville, c'était bien pour ça qu'ils étaient là, parce que les flics là-bas avaient un peu du mal à gérer le fait qu'il y ait le 10e, le 11e, le 19e et le 20e. On a vu cette bande de cow-boys débarquer au carrefour et essayer de rétablir l'ordre. Heureusement, ils n'ont pas complètement réussi, mais en fait, ce n'est pas eux qui suffiront à venir à bout de tout ce bordel, et tant mieux. Et du coup, on vous invite à ce rassemblement contre l'occupation policière. Je répète, donc ce sera le samedi 1er mars à Belleville à 15h.
Et c'est fini pour l'agenda, mais je crois qu'il y a des messages.
Donc en fait, déjà une première information, c'est que au tribunal de Valence, dans la Drôme, il y a un procès aux assises en cours avec 4 prévenus. Et on sait que le procureur a demandé 30 ans incompressible pour un des prévenus qui est déjà en train de purger une peine de 18 ans à Moulins. Pour les 3 autres prévenus, il a demandé pour 2, 15 ans et pour le dernier 5 ans. Donc on attend le délibéré, on essaiera de donner des nouvelles la semaine prochaine. un premier message pour Michel le Mexicain à Villepinte. Une grosse bise de la part de Letty, Alain et Mumu de Perpignan. On t'écrit bientôt, on pense bien à toi. Et un autre message, donc c'est pour Malek Kider de la part de Julien de Corse. Salut Malek, j'espère que tu vas bien. Ça fait un moment que j'ai pas de tes nouvelles. J'espère venir te voir bientôt. Porte-toi bien. À bientôt, mon frère.
Et voilà, et ben on en profite aussi pour passer les habituels messages à tous les prisonniers qui écoutent et à ceux qui n'écoutent pas aussi. Force, courage et détermination.
Un grand bonjour à tout le monde.
Et on re-salue Abselem. On espère que tu vas sortir bientôt.
On t'attend.
Et sinon, là, on peut redonner l'adresse du blog.
Oui, sans papier ni frontières. Donc je me suis trompée. Donc sans papier, ça j'ai déjà appelé, et encore attaché, nifrontieres, ni frontières, .noblogs.org.
Et on rappelle aussi que s'il y a des gens à Fleury qui écoutent et qui ont entendu parler de la mort du, enfin la mort du détenu qui est en état de mort cérébrale, qui peuvent écrire à l'envolée 43 rue de Stalingrad, 93 100 Montreuil. Et voilà. Et donc la semaine prochaine, ça sera l'émission l'envolée.
Et nous, on vous retrouve le 7 mars.
Jamais n'effacer les souvenirs de vos jours passés. Folle jeunesse, toi qui nous laissais tant de tendresse et de